et heureux, nous allons, en tant que pèlerins courageux pour le Maître, travaillant et étant dans ce qu'il nous a confié. Nous le faisons volontiers, car cela est lié à l'éternité. Travaillons, travaillons pour le Maître. Allons dans la joie, car cela est lié à l'éternité. Message merveilleux de son amour, nous l'apportons à ce monde chargé de péché. Mais attention, le nombre des travailleurs est petit et le travail est grand. La moisson est grande. Travaillons, travaillons, travaillant, travaillant pour le Maître. Nous allons dans la joie. Travaillant, travaillant pour le Maître, car cela est lié à l'éternité. Dans l'humilité, nous suivons notre Maître, qui nous accorde toujours de nouveau du courage et de la force. Il nous préparera pour ce matin, pour ce jour glorieux de son retour. Il nous couronnera de justice. Travaillant, travaillant pour le Maître, nous allons dans la joie, nous allons dans la joie. Travaillant, travaillant pour le Maître, car cela est lié à l'éternité. Quel jour de bonheur et de joie quand nous tiendrons là-bas devant son trône et que nous verrons sa face plus claire que le soleil qui brillera sur tous les cieux. Travaillant, travaillant pour le Maître, nous allons dans la joie, car cela est lié à l'éternité.
Wir singen als erstes Lied 307.
Le cantique 307. Je crois Dieu, cela s'accomplira encore. Je crois Dieu, cela s'accomplira encore, ce qu'il a promis, ce qu'il nous a promis. Sa parole demeure ferme, elle ne passera jamais. Cela m'accorde du courage. Vois que le monde semble prospérer. Ils ne peuvent pas me comprendre. Je ne crains pas leur moquerie. Je verrai Jésus en tant que roi. En tant que le roi. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Est-ce que je ne devrais pas lui faire confiance? Qui m'a richement rendu heureux. Sur ce qu'il passe, sur ce qui passe, je ne peux pas bâtir. de la tromperie. Même si le monde semble prospérer, moi, mon cœur est attiré vers le ciel. Je ne crains pas la moquerie. Je verrai Jésus, le roi. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Cela édifie la piété et tranquillise le cœur. Cette joie merveilleuse est en moi. Ne peut jamais cesser. Même si le monde semble prospérer, cela ne m'embête pas. Je ne crains pas la moquerie. Je vois Jésus venir en tant que roi. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Ça, c'est une bénédiction. Lui qui m'a si richement béni. Dieu est avec moi. Dans tout le chemin. Là, dans tous les chemins où son esprit m'envoie. Que le monde puisse sembler prospérer, cela ne m'ennuie pas. Je ne crains pas la moquerie. Je vais à la rencontre du roi Jésus. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Je crois Dieu.
Amen.
Amen. Je voudrais dire, j'espère que cela est ainsi avec nous tous, que nous avons cette certitude qu'il nous a rachetés et qu'il a pardonné nos péchés et que nous lui appartenons pour ce temps et pour l'éternité. Si cela devrait être encore ainsi, qu'il y a quelqu'un qui serait présent, qui n'a pas encore expérimenté cela, qui n'a pas encore reçu cette certitude, alors aujourd'hui, c'est encore le temps de la grâce pour toi, que tu puisses te tourner au Seigneur. Et il a promis, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Et c'est ainsi que nous avons la grâce de savoir que c'est encore le temps de la grâce, que nous pouvons venir à lui. Et alors il est dit, son esprit donne à notre esprit le témoignage que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes un enfant, que je suis un enfant de Dieu. Alors nous pouvons avec ce cantique ici, de tout notre cœur dire, de tout notre cœur, comme c'est toujours dit ici dans le cœur, je suis racheté, racheté par le Seigneur, entièrement racheté, loué et exalté et remercié. Je pense que personne ne devrait se tromper lui-même, mais que chacun soit ouvert et dise, Seigneur, je ne suis pas encore, je n'ai pas encore expérimenté cela, je ne vais pas encore rendre cette manière, je n'ai pas encore cette certitude de mon plein salut, accorde-moi ta grâce. Et je vous le dis, que celui qui réellement dans la vérité et dans, dans la vérité et dans l'humilité et dans la vérité, le Seigneur le reçoit s'il vient de cette manière à lui. Je voudrais lire une parole que l'apôtre Pierre a adressée aux églises autrefois, à l'époque, et cela est connu de nous, toute cette parole, mais c'est toujours de nouveau une parole nouvelle pour nous, car la Bible dit que sa parole est nouvelle tous les matins, tous les soirs. Et ainsi, nous voulons lire dans 1 Pierre, le chapitre 1, à partir de verset 3. Il est dit ici d'une manière merveilleuse, tel que Pierre ici le dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a fait naître d'en haut pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et nous remarquons que Pierre, ici, mentionne, se réfère en fait à la parole du Seigneur qu'il avait dit à Nicodème. Si ce n'est que quelqu'un naisse de nouveau, naisse d'en haut, d'eau et d'esprit, sinon il ne peut pas voir le royaume de Dieu. C'est ainsi que Pierre, ici, a exprimé cela d'une manière merveilleuse, qu'ils étaient nés d'en haut par l'Esprit de Dieu pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Oui, comme c'est merveilleux de ce que les véritables croyants savent, que son héritage, que leur héritage n'est pas ici sur cette terre, mais dans la gloire. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là, et nous pouvons dire que dans les derniers temps, il a révéler ces choses. Le verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps, pour un peu de temps, par diverses épreuves. Oui, nous remarquons que la vie du croyant n'est pas toujours par des bouquets de fleurs, parfois ça passe aussi par des épines. Mais ils étaient heureux qu'ils étaient des rachetés. Et chacun qui est racheté, il sait qu'il a à supporter certaines choses, telles que le Seigneur lui-même a dû supporter beaucoup de choses. Oui, ici il est dit encore au verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Verset 8, « Vous l'aimez sans l'avoir vu. » Oui, cela a dû être des personne qui ne l'avait pas vu dans la chair, alors que le Seigneur personnellement était ici sur cette terre. Mais gloire à Dieu, ils ont cru. Ils ont cru le message qui leur a été apporté et la parole a produit en eux l'effet pour lequel elle a été envoyée. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir. Encore vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Est-ce que nous pouvons aussi nous réjouir d'une joie merveilleuse et glorieuse, même si nous ne l'avons pas vu dans la chair? Oui, je crois que nous devrions pouvoir le louer tel qu'ils l'ont fait. Que le Seigneur puisse nous accorder sa grâce pour cela et nous accorder à cela et que nous puissions vraiment avoir ce désir dans notre cœur ardent. Et je vous dis qu'il faut qu'il puisse nous accorder cela. S'il ne nous l'accorde pas, c'est en vain que nous essayons d'avoir cette joie merveilleuse, car de nous-mêmes, nous ne savons même pas parfois ce que nous devons prier. Mais il est plein de grâce et de miséricorde, et c'est lui qui nous accorde les paroles que nous devons lui exprimer dans la prière. N'est-il pas merveilleux? Oui, c'est merveilleux. Que son nom soit loué et exalté, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Oui, nous pouvons dire qu'il nous a rachetés, il nous a loués, nous lui appartenons, et que nous ne devrions pas lui apporter l'honneur et la reconnaissance, nous voulons pour le faire nous lever. Père Céleste, nous te remercions de la profondeur de notre cœur pour ta grâce et ta fidélité. Nous te remercions pour la rédemption. Nous te remercions pour le salut. Tu nous as rachetés. Tu nous as délivrés. Ô Seigneur, reçois la louange, reçois l'honneur et la reconnaissance de la profondeur de notre cœur. Nous sommes, nous t'appartenons. Ô, si nous pouvions de la bonne manière, d'une joie merveilleuse et glorieuse, t'exalter et t'apporter la louange, loué et exalté soit ton merveilleux nom et glorieux nom de Jésus. Bénis maintenant ton peuple, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont venus et tous ceux qui ne pouvaient pas venir. Que tu puisses les bénir. Nous te le demandons dans le nom précieux et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
Alléluia.
Viens Dieu des cieux, viens Esprit du Seigneur. Viens Esprit du Seigneur, viens Dieu des cieux. Meut-toi, agis parmi nous. Ne reste pas loin. Feu divin, répands-toi sur nous. Tu nous es précieux, ton céleste. Tu nous es précieux, ton céleste. Amen. Tous ensemble. Baptise-nous, Dieu des cieux. Que ta sainte flamme soit visible sur nous.
Amen.
Amen. Amen. Nous nous asseyons. Moi, je voudrais saluer tous cordialement et souhaiter la bienvenue dans le nom précieux du Seigneur, particulièrement tous ceux qui aujourd'hui sont là pour la première fois. Levez-vous, s'il vous plaît. De lever les mains, cela ne suffira pas entièrement. Soyez la bienvenue, soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Oui, soyez la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse parmi nous. Merci, vous pouvez vous asseoir. Mais les deux frères, nous allons maintenant les appeler pour qu'ils puissent nous apporter une parole de salutation. Un frère du Portugal et un frère du Brésil. Les noms, je les ai aussi. Je les ai écrits aussi. Venez, venez devant. Et nous demandons au frère Helmut Miskis qu'il puisse venir et justement traduire les quelques mots. Nous sommes dans la réalité reconnaissants de ce que Dieu de tous les peuples, les langues et les nations appellent à sortir. Le Brésil, en tant que parlant le portugais, est sûrement exactement grand comme le reste des pays qui parlent le portugais en Amérique du Sud, et nous nous réjouissons de cela, de ce que nos frères sont ici aujourd'hui. Il y a, quand est-ce que j'étais, le frère Helmut Miskis, il y a 30 ans d'ici, j'étais aussi au Brésil. J'ai apporté déjà à l'époque la parole de Dieu là-bas. Et il n'y a pas longtemps, nous étions à Porto, chez notre bien-aimé frère, cela me réjouit réellement de ce que nos frères sont ici aujourd'hui. Et nous avons la langue espagnole maintenant, comme pour dire la langue que nous pouvons maintenant utiliser, et nous pouvons inclure toutes les langues, tous les pays qui parlent l'espagnol, pour que la parole du Seigneur soit aussi portée dans ces régions. Nous avons aussi nos frères dans le ministère, toujours parmi nous, le frère Léonard de Bruxelles. Lève-toi s'il te plaît pour que tout le monde puisse te voir. C'est aussi un homme de Dieu qui porte la parole du Seigneur, que Dieu te bénisse. Nous avons notre frère Didier de Paris, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous avons ensuite d'autres frères ici et partout, les frères de Prague, ou je voudrais dire le frère Graf de la Suisse est ici. Lève-toi pour que tous puissent te voir. Oui, nous sommes très reconnaissants pour tous nos frères qui portent la parole du Seigneur. Nous avons aussi, je ne dois pas non plus inapercevoir le frère Di Prossimo aussi. C'est merveilleux de ce que nous pouvons être réunis. Au nom du Seigneur, nous avons des salutations particulières à remettre, vraiment du monde entier. Et cela commence au fin fond du Nord et ces salutations se terminent quelque part de l'autre côté du monde. Particulièrement des pays africains, que ce soit Nairobi, que ce soit Johannesburg, Cape Town, Bénin, partout les frères, particulièrement le frère Daniel de Kapstadt, remet cette salutation à tous, et le frère Rigobert du Bénin et tous les frères, et aussi le frère Wallström du Danemark. Et cette fois-ci, nos frères et sœurs de l'île Bornholm m'ont demandé de saluer toute l'église. Bornholm est l'une des îles les plus belles en Danemark. Et c'est merveilleux de ce que Dieu appelle son peuple à sortir de partout. La semaine dernière, j'avais réellement reçu des... J'appelle téléphonique de Oslo. Il y a une sœur qui m'a appelé qui m'avait dit que de Londres, j'avais appris que Dieu, sur cette terre, dans notre temps, fait quelque chose. Et je veux entendre plus parler, je veux savoir plus et savoir de quoi il s'agit. Imaginez-vous, à Oslo et ensuite de Londres, et maintenant arrive une sœur, Myriam, appelle de Jérusalem et me demande, « Es-tu frère Franck ?» Je dis, « Oui, je le suis, qui parle avec toi. » Et le frère Ménette, le frère Detlef Ménette, avait lors de son dernier passage à Jérusalem laissé des brochures et rendu des témoignages. Et voilà que du fruit a été manifesté de cela et les brochures avaient été un peu laissées de côté et ensuite elles ont été lues et la sœur a appelé et a dit, je suis de la tribu de Manassé et j'ai entendu parler de ce que Dieu dans notre temps fait. L'un ici, l'autre là-bas et aussi de Berlin, au moins j'ai reçu 5 appels téléphoniques cette semaine. Nous avons là-bas les programmes une fois dans la semaine, 30 minutes à la télévision, dans la télévision locale. Et voilà, le Seigneur parle avec les hommes et qu'il puisse nous utiliser tous pour parler avec ceux qu'il veut encore appeler à sortir. Nous savons que ce ne sont pas les grandes foules qui viendront, mais son peuple prêtera l'oreille à sa voix, et nous avons réellement ce grand privilège de ne pas propager des interprétations et des opinions humaines sur la parole de Dieu et de ne pas entendre de telles choses, mais d'écouter seulement la parole de Dieu dans sa forme originale. Et si nous mentionnons et si nous avons bien compris le frère Branham, alors, Dieu envoie un prophète avec un message prophétique pour toujours nous ramener à la parole originale de Dieu, pas pour appeler à l'existence de nouvelles interprétations, mais telles que dans la parole d'introduction nous l'avons entendu, que la vie de Dieu en nous soit manifestée, pour que la vie de Dieu en nous soit manifestée, et elle sera seulement manifestée en ce que la parole de Dieu, en tant que semence incorruptible de la parole, soit implantée dans notre cœur et est aussi certain que Jésus-Christ est ressuscité des morts. C'est ainsi aussi certain que nous avons par la même puissance de résurrection reçu la même vie en nous. Je voudrais lire deux versets et ensuite venir à parler du temps, des événements actuels. D'abord dans Jérémie, chapitre 1, et ici nous lisons le verset 11 et 12. Jérémie chapitre 1, versets 11 et 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche de l'amandier, de l'arbre qui veille, ou qui se réveille, qui veille. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. De l'évangile de Jean, le chapitre 19, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était accompli, il dit, afin que l'Écriture soit entièrement accomplie, j'ai soif. Il était écrit, il y avait là, verset 29, un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une en éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. La pensée principale ici est l'accomplissement des Écritures. L'accomplissement de ce que Dieu, dans sa parole, a dit à l'avance. Ça, c'est notre orientation. Et cette orientation, au fondement de la parole, des Écritures, nous en avons besoin plus qu'auparavant, maintenant. Si, par exemple, nous regardons dans le monde, vous savez, dans la dernière lettre circulaire, j'ai écrit sur l'union de l'Europe, sur les unions de l'Europe. Si cela n'était pas écrit dans la parole que la dernière puissance mondiale va gouverner le monde entier, dominer le monde entier, si cela n'était pas écrit comme ça dans la parole de Dieu, dans la Bible, nous n'aurions même pas eu besoin de le mentionner. Nous avons aussi publié cette lettre cette photo dans toutes les lettres séculaires. Et aujourd'hui, toute une photo est montrée dans la presse avec tous les représentants qui ont été présents alors que le 29 octobre 2004, la Constitution européenne a été signée, et cela sous l'image du pape Innocent. Et celui qui connaît les langues étrangères sait ce que veut dire innocent. Innocent veut dire innocent, sans faute, sans faute. Je ne sais pas si un pape a été une fois sans faute, mais tous les contrats, tous les représentants de ces 25 pays, qui représente 445 millions d'habitants, était présent, et le pape sur cette image, donc on le voit en train avec la main détendue comme pour les bénir. Et ensuite suit à Bruxelles, cette conférence a eu lieu, et il dit et ils écrivent 189 communautés chrétiennes sont sur la liste noire et tous vont être pris sous observation. J'espère que nous aurons un jour cette liste pour savoir qui est écrit sur cette liste. Mais ça n'a pas d'importance. Il y a une chose qui est sûre. Et peut-être que demain je vais amener cet article. Il y a 6 communautés de croyants qui ont réussi, et à eux appartient l'église pentecôtiste, que maintenant, comme les deux grandes églises, donc catholiques et protestants, ils auront un représentant au Parlement européen. Alors nous remarquons, celui qui est reconnu par l'État reçoit donc la protection de l'État. Et celui qui n'est pas reconnu par l'État est bien sûr, quand le temps sera arrivé, il va devoir être persécuté. Un article aussi du 29 janvier, accusation des protestants en France. Ici, il est dit, les communautés qui ont reçu un droit supplémentaire en tant qu'église organisée devraient se battre, comme c'était le cas il y a des siècles, pour obtenir une permission de construire et d'exister. Donc, accuse le représentant principal des églises protestantes. Mais pour la construction de mosquées, on n'a pas besoin de se faire de soucis, cela est toujours possible et permis. Donc, on voit que cela mène à ce que, à la fin du temps de la grâce, les choses vont devenir sérieuses pour tous les véritables croyants, parce que ils ne nagent pas avec le courant de ce temps, mais nage contre le courant et donne raison à Dieu. Ensuite, et on ne peut pas ici entièrement se détourner de ces choses, je voudrais aussi faire mention de cette date importante, parce que cela concerne les Juifs, ça n'a rien à voir à faire avec la politique. Tous, le 27 janvier de cette année, nous avons vu la 60e année de la délivrance du reste des Juifs du camp de concentration en Pologne appelé Auschwitz. Et toute cette documentation d'État, je l'ai laissée photocopier, de ces 6 camps de concentration mortels qui tous étaient sur le sol polonais. Pas un seul en Autriche, pas un seul en Allemagne. Tous les six camps de concentration de gaz mortels étaient sur cette terre entièrement catholique, appelée la Pologne. Et tous ceux qui savent, en Pologne, il y avait seulement trois groupes de peuples. Les uns, plus de 96% étaient polonais. Ensuite, il y avait les Allemands et les Juifs. Les Juifs étaient à peu près du même pourcent que les Allemands en nombre, mais ils étaient au moment où la Deuxième Guerre mondiale avait pris son cours, ils étaient soumis à la persécution, simplement à la persécution. Et ça, je le dis pour une raison bien précise. 6 millions, ce n'est pas quelque chose de simple. 6 millions d'hommes en à peu près 13 ans, simplement sont passés du temps dans l'éternité, ils ont été meurtris et seulement parce qu'ils étaient des Juifs. Seulement parce qu'ils étaient juifs. Il n'y avait pas une autre raison. Et cela est justement le grand problème. Je peux bien me rappeler, alors que le frère Goldner, que la plupart de nous connaissons, alors qu'il m'a rendu son témoignage, comment est-ce que à 15 ans, avec son ami ou bien qui que c'était, aussi en tant que juif, les deux, ils ont dû encore, j'étais dans le crématorium, donc dans le feu, ceux qui avaient été mis à mort par le gaz. Et le moment est arrivé où il avait devant ses yeux sa propre sœur. Et il devait jeter sa propre sœur sous l'observation des militaires SS dans le four. J'étais avec lui dans la même chambre. Nous avions parlé l'un avec l'autre. Et ensuite, le moment est venu où le frère Goldner m'a dit, « Frère Frank, j'ai haï les Allemands. » Et il a dit, « Mais ce soir est le moment où Dieu me fait grâce. Nous voulons ensemble nous mettre à genoux et prier. » Nous avons prié. Et le frère Goldner avait un ulcère depuis des années à l'époque. Et je lui ai dit, aujourd'hui c'est ton jour. Le jour de la guérison. Et il était réellement guéri. Encore quelques-uns de vous savent cela. Je voudrais malgré tout venir à montrer certaines choses. Ce n'est pas seulement des informations. Le chemin d'Israël est un chemin difficile. Je me suis écrit les versets bibliques pour ne pas toujours devoir les écrire. Exode chapitre 12, la sortie de la captivité, l'appel, la sortie surnaturelle, l'exode surnaturel et la délivrance surnaturelle. La Pâque a été immolée. Le sang a été appliqué sur les linteaux des portes. Ils avaient leurs souliers à leurs pieds et leurs reins étaient leurs ceintures à leurs reins. Dieu avait accompli la promesse qu'il avait donnée à Abraham et il a envoyé son prophète Moïse et 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, sont sortis. Mais ensuite a suivi le temps de l'épreuve. C'est ainsi que nous l'écrivons dans cette lettre circulaire. Le temps de l'épreuve. Dans Exode 24, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8, l'alliance de Dieu avec l'Église d'Israël est faite avec le peuple d'Israël. La parole leur a été lue. Tous ont dit oui. Et c'est ainsi que le sang a été répandu sur le peuple et sur le livre de l'alliance. Et Dieu a fait une alliance avec Israël. Mais bien aimé, quelque chose de merveilleux. Mais malheur à ceux, à celui qui brise cette alliance, nous l'avons vu, nous l'avons entendu de la bouche de frère Rousse. Les paroles des hommes restent des paroles d'hommes. Mais la parole de Dieu demeure parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'a rien à dire à qui que ce soit d'autre que en dehors du peuple de Dieu. À personne d'autre que le peuple de Dieu. C'est nous qui sommes appelés à appliquer la parole de Dieu. Pas les incroyants, pas les hommes qui se détournent de Dieu. C'est à nous que Dieu parle, avec son Église, avec son peuple. C'est avec son peuple que Dieu a fait une alliance. Vous qui n'êtes pas mon peuple, vous serez appelés fils du Dieu vivant. Mais ensuite suit toute une liste des versets dans Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26. C'est la parole la plus longue que Dieu le Seigneur, en un seul coup avec Israël, a tenue. Et toujours de nouveau, il s'agit dans tout le chapitre ici, de l'obéissance. Je le lis, seulement les versets. Lévitique, chapitre 26, versets 11 et 12. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Lévitique, chapitre 26, versets 11 et 12. À quelle parole cette écriture ici nous rappelle? À 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, où il s'agit de l'appel à sortir et de la séparation, où le peuple de Dieu est rappelé, est ramené pour servir le Seigneur et à marcher dans ses voies. Et c'est peut-être raison que cet avertissement est adressé à nous, pas aux autres. Seulement si dans l'obéissance de la foi, nous revenons à Dieu, c'est ainsi que Dieu pourra de nouveau se tourner à nous. Dieu ne peut rien faire avec des chemins de désobéissance et d'incrédulité. Car l'incrédulité et la désobéissance nous a apporté la chute depuis le commencement déjà, du jardin d'Éden déjà. L'incrédulité et la désobéissance, la transgression et la séparation d'avec Dieu est livrée à la mort. Et c'est ainsi que nous voyons notre Seigneur et Rédempteur, comment est-ce qu'il a été obéissant, il est obéissant jusqu'à la mort de la croix et pour justement annuler la désobéissance d'Adam pour nous et nous ressortir de la mort et par la grâce de Dieu nous accorder la vie éternelle. Dans Lévitique chapitre 26, au verset 18. Lévitique chapitre 26, verset 18. Chapitre 26, verset 18. Si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtirai sept fois plus pour vos péchés. Cela commence déjà au verset 14. Ça, c'est ce que Dieu dit après qu'au verset 14, il avait averti son peuple. Mais si vous ne m'écoutez point, au verset 14, et ne mettez point en pratique tous les commandements, c'est de ça qu'il s'agissait. Il s'agissait de l'obéissance. Et car l'obéissance est mieux que le sacrifice. À quoi est-ce que tous les sacrifices dans la désobéissance servent? Dieu ne peut rien faire avec cela. La désobéissance appartient à la chute. L'obéissance appartient à ceux qui ont été rachetés de la chute et qui ont été ramenés en communion avec Dieu. Ensuite, au verset 21, Lévitique chapitre 26, verset 21, si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai sept fois plus selon vos péchés. Ça, il faut se représenter cela devant les yeux. Le Dieu vivant qu'avait dit déjà dans Exode, chapitre 19, verset 5, je vous ai fait sortir, je vous ai amené à moi. Lui qui avait fait une alliance avec ce peuple devait tenir une telle parole dure à son peuple. Ensuite, au verset... Dieu avait fait une alliance avec ce peuple. Verset 25. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Et Dieu a dit, c'est pas possible. Il avait fait une alliance. Je vengerai la brisure de l'alliance que j'ai faite avec vous. Vous êtes le seul peuple pour lequel, à cause du peuple, je suis descendu sur cette terre pour vous racheter, pour vous appeler à sortir. Moi, je me suis identifié avec vous. Vous êtes mon peuple. Je suis votre Dieu. Ici est ma parole pour vous. Elle est obligatoire comme un contrat. Obligatoire comme un contrat. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous ne voulez pas m'écouter, donc ça c'est au verset 21. Je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. Comment est-ce que Dieu a dû ressentir en disant ces choses? Mais je le répète encore une fois, il ne peut rien faire avec l'incrédulité et la désobéissance. Il ne peut pas être avec nous, ce n'est pas possible. L'un c'est la lumière, l'autre c'est les ténèbres. L'un c'est la vie, l'autre c'est la mort. Ce n'est pas possible. Et ensuite, au verset 25, Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera la brisure de l'alliance. Maintenant le verset 27. Mais si malgré cela vous ne m'écoutez point et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur. Il s'agit de l'obéissance et pas plus ni moins. Bien-aimés frères et sœurs, de quoi il s'agit aujourd'hui? Est-ce que Dieu est satisfait de ce que de la musique ici est faite, que de l'enthousiasme est fait, que des psaumes soient chantés? Dieu n'a rien de cela. Si nous ne marchons pas dans l'obéissance de la foi, dans la vérité de la parole de Dieu, nous avons été ramenés à Dieu pour vivre en communion avec lui. Et ici, Dieu avertit, au verset 32, je dévasterai le pays de vos et vos ennemis. Imaginez-vous cela, le verset 30 plutôt. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues, je réduirai vos villes en désert, etc. Imaginez-vous, un pays béni, débordant de miel et de lait, un pays glorieux, un pays fécond, et subitement, il devient un désert. La désobéissance détruit, l'obéissance édifie, construit et accorde la bénédiction. Le verset 33, je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Si nous lisons de tels versets, alors s'il vous plaît, je demande que nous ne soyons pas en train de penser en ce moment seulement à Israël, mais à nous, nous posant la question, dans quel état je suis, dans quel état est ma foi, dans quel état est mon obéissance devant toi, ô Seigneur, dans quel état nous sommes devant Dieu? Est-ce que nous pouvons de tout notre cœur et de toute notre âme croire Dieu? La persécution, et nous pouvons lire cela dans Luc, le chapitre 19, à partir du verset 44. Ici, le Seigneur réellement a donné cet avertissement sur Jérusalem. Dans Luc 19, à partir du verset 41 jusqu'au verset 44, au verset 42, si toi aussi au moins ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Et le Seigneur termine avec cette parole. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité, le verset 44, la fin du verset 44. Bien-aimés frères et sœurs, si nous ne reconnaissons pas le temps, si nous reconnaissons le temps de sa visitation maintenant, ça c'est un signe de notre élection. Le mot de sa visitation, seulement avant la fondation du monde, c'est un signe, c'est une marque de son élection avant la fondation du monde. Seulement celui à qui Dieu fait grâce, c'est à lui que Dieu montre son œuvre et montre son chemin. Les autres vont continuer dans leurs entreprises religieuses à jouer les pieux. Mais c'est jusqu'à aujourd'hui encore, les Juifs attendent Élie, que Élie vienne. Tous ceux qui étaient en Israël savent cela. À chaque Pessah, il y a une chaise supplémentaire et un verre supplémentaire pour que quand Élie arrive, qu'il puisse prendre place directement et avec eux participer et fêter le souper. C'était aussi comme ça du temps de Mohammed, de Mahomet. Les Juifs avaient attendu, Élie avait attendu le grand prophète qui devait venir. Et l'incompréhension est encore jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas pu discerner et comprendre que dans ce qui est écrit dans Malachie 3, que Dieu le Seigneur enverra son messager devant lui pour frayer le chemin, préparer le chemin, et que c'est seulement après, à la fin du dernier chapitre, que la promesse vient. Selon Malachie 4, verset 5, que Dieu enverra son prophète comme Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Et ce jour-là va brûler comme un four. Le soleil va se transformer en ténèbres et la lune en sang avant que ce jour arrive. Mais la promesse ne s'est pas accomplie il y a 2000 années passé, mais elle s'est accomplie maintenant à la fin du temps de la grâce. Et c'est pour cette raison que nous devons toujours de nouveau insister là-dessus. Celui qui, dans ce temps, réellement a trouvé grâce devant Dieu, trouve grâce devant Dieu. Il reconnaît le temps, il reconnaît les signes des temps, il reconnaît le message. Et comme le Seigneur lui-même disait, quand vous verrez que tout cela se passe, s'accomplit, alors levez vos têtes, Luc 21, verset 28, parce que vous savez que votre rédemption est proche. Encore rapidement, les versets concernant l'éparpillement. Deutéronome 5, verset 27. Je vais vous éparpiller parmi tous les peuples. Deutéronome, chapitre 4, verset 29. Si ensuite de tout votre cœur vous me cherchez, c'est ainsi que je me laisserai trouver de vous. Deutéronome chapitre 29, verset 24 jusqu'au verset 26. Le jugement d'Israël parce qu'ils ont brisé l'alliance du Seigneur et ont adoré d'autres dieux. Nous croyons à cet endroit en un seul vrai Dieu. Il n'y a jamais eu deux ou trois dieux et éternellement, il n'y en aura seulement qu'un seul. Ce seul Dieu a eu le droit de se révéler en tant qu'ange de l'Alliance, c'est là dans tout l'Ancien Testament, dans la colonne de feu. Il a eu le droit de venir à Abraham et de parler et avec lui et de tenir le souper avec lui dans Genèse. Chapitre 18, le verset 2. Il a eu le droit dans Genèse 14, au verset 18, en tant que Melchisédek, en tant que sacrificateur, d'aller à la rencontre d'Abraham avec du pain et du vin après la victoire sur les rois des nations. Et ensuite, il faut aller dans Hébreux 7, que Melchisédek, au verset 3, n'est pas comme ça quelqu'un de quelconque. Comme la plupart des commentaires bibliques l'écrivent, qu'il était un roi des nations, un roi païen. Oh mon Dieu, il était le roi des rois et le roi de justice. C'est ainsi que cela est écrit. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 2 jusqu'au verset 5, Dieu le Seigneur fait miséricorde et ramène son peuple éparpillé de tous les peuples de nouveau. Comme c'est écrit dans Ésaïe 14, verset 1, il les rétablira dans leur pays. Ésaïe 14, verset 1, c'est-à-dire tous ceux qui sont restés. Jérémie 31, verset 10, lui qui avait dispersé Israël, le rassemble de nouveau et le garde comme le berger garde son troupeau. Ézéchiel 36, verset 24, je vous rassemblerai des nations de tous les pays, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans votre pays. De 143 pays, le peuple d'Israël a été rassemblé et pour parler avec la parabole de notre Seigneur, apprenez cette parabole du figuier. Quand le figuier devient tendre, quand il reçoit de la vie, alors vous savez que le temps est proche. Romains chapitre 12, verset 7. Romains chapitre 11, verset 7. Ce qu'Israël cherche ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. La partie élue l'a obtenu, ce qu'Israël cherche. C'est la même chose aussi dans notre temps, dans nos jours. Romains 11, verset 25. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée jusqu'à ce temps. Et ce temps est accompli, car il est écrit, il est là maintenant, comme c'est écrit dans Luc 21, verset 24, que Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'au temps. Et quand ce temps sera accompli, le temps des nations sera accompli, alors l'Église sera achevée, enlevée, et le Seigneur se tournera à Israël. Jusqu'à l'accomplissement de Romains 11, verset 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. D'abord, les 144 000 sous le ministère des deux témoins, comme dans Apocalypse 7, cela est écrit, qui ensuite apparaîtront sur la montagne de Sion d'Apocalypse 14 au verset 1, et ensuite le reste, et ensuite le reste. Seulement encore cette pensée que Dieu va venger le massacre de son peuple de l'Alliance. Et nous allons ici dans le cinquième saut, sur lequel frère Branham, d'une manière si claire et ouverte, a parlé dans Apocalypse, le chapitre 6. Mais dans Ésaïe 26, au verset 21, il est écrit, pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Dans Jérémie 50, verset 17, Israël est une brebis égarée comme les lions sont, comme les lions ont chassé. Et ensuite suit Jérémie 50, verset 28. Dieu va venger Babylone à cause de son temple. Et Babylone était une coupe en or et a rendu tous les peuples sous. Je me réjouis pas de ce que ici Babylone soit écrit, mais je me réjouis de ce que ce ne soit pas Allemagne, mais Autriche ou bien un autre pays qui soit écrit, mais Babylone. Je me réjouis de cela. Je n'ai pas de problème avec cela. Et ceux qui, comme un fil rouge, suivent ce sujet dans les Saintes Écritures, n'ont pas de problème. Ces personnes ne peuvent se déguiser comme maintenant pendant le carnaval. Non, nous ne regardons pas au déguisement extérieur. Nous regardons à la nature, à ce qui est fait en cachette, mais toujours de nouveau a été manifesté. Jérémie 51, verset 13. Toi qui habites, oh, toi ville qui habite près des grandes eaux et qui a d'immenses trésors, pas seulement Apocalypse 17, mais déjà dans l'Ancien Testament, dans les prophètes, l'histoire du salut et l'histoire des massacres a été écrite pour que tout soit fondé sur deux ou trois témoins et que nous ayons toujours la possibilité de revenir à la parole et savoir, c'est ainsi que cela a été écrit, c'est ainsi que Dieu l'a dit et c'est ainsi que cela s'accomplit. Jérémie, chapitre 51, verset 13, nous venons de le lire. Ensuite, Jérémie, 51, verset 42, ô toi ville, la mer est montée sur Babylone. Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. Oui, ça aussi cela arrive. On doit lire tel que ils ont massacré là-bas, c'est ainsi que le monde entier. Donc la mer des peuples va être mouvementée. Et ensuite, celui qui va venger va venir et exécuter la vengeance. Apocalypse 18, verset 16. Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Que ici, ce soit pas, il n'est pas question de, il fait pas question de Paris ou bien de, il n'est pas question de Paris ou bien de Londres ou bien de notre pays ou bien d'une autre ville. Tous le voient. La description telle qu'elle est écrite ici dans ce livre est claire. Mais je voudrais ici, dans la clarté, vous dire, seulement celui à qui vraiment Dieu révèle ces choses peut le voir. Sinon, nous tâtonnons tous dans les ténèbres comme tout le monde religieux tâtonne. Et cela était aussi à entendre alors qu'à Bruxelles, ces 189 cultes et sectes ont été mentionnés, ont été conduits. Il y a quelqu'un qui a osé dire que la plupart de ces gens-là viennent des États-Unis. Et ensuite, le représentant des États-Unis, tout de suite, a protesté. Hein? Ces 189 cultes et sectes ont été cités donc de cette liste noire. Il y en a un qui a protesté parce qu'on disait que cela, la plupart d'eux viennent des États-Unis. Apocalypse 18, verset 24. Et l'on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Apocalypse 19, verset 2. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre. Et il a vengé le sang de ses serviteurs. Nous pourrons continuer à lire, mais je voudrais ici mentionner la parole de l'obéissance et de la foi. Car c'est de ça qu'il s'agit. Même si nous savions tout et nous pourrions même porter le deuil, peut-être aller dans Apocalypse, repasser dans Apocalypse chapitre 6 et lire, car il faut lire aussi Jérémie chapitre 51 verset 13 avec Jérémie chapitre 51 verset 42, le verset 13 et verset 42. Et ici nous voyons qu'il crie ceux qui sont sous l'autel. Jusqu'à quand, Apocalypse 6, verset 10, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et ensuite, la réponse, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos. Nous avons lu aussi du sang dans Apocalypse 18, 24 et Apocalypse 19, verset 2. Et ici, on voit, il leur dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. La première partie s'est déjà accomplie. La deuxième partie est encore devant nous. Ces 6 millions-là, je les ai déjà mentionnés, des Juifs massacrés pendant 13 ans, dans un laps de temps de 13 ans. On se pose la question, comment est-ce que cela a pu être possible? Comment est-ce que cela a été possible? Dieu l'a permis, car sa protection n'est plus avec nous quand nous marchons sur dans nos propres voies et dans nos propres pensées. Si Dieu peut être avec nous, alors tel qu'il a promis, il a dit, je serai avec toi, même si tu passes par le feu, cela ne te nuira pas. Même si tu passes par l'eau, etc., comme c'est écrit dans Ésaïe, cela ne te nuira pas. Mais il faut qu'il soit avec nous. S'il peut être avec nous, c'est ainsi que cette promesse-là est valable pour nous. On en a toujours eu à le dire. C'est dans Ésaïe 43, verset 2. Et dans les différentes catastrophes naturelles, les gens posent tout de suite la question. Mais où était Dieu? Où était Dieu? Mais la question que nous posons est la suivante. Où était Dieu alors que... Où était le peuple? Où était le peuple? Alors que Dieu appelait de dire après la catastrophe, où était Dieu? C'est quelque chose de très simple. Mais où étions-nous alors que Dieu avait appelé? Où étions les Juifs alors que le Seigneur personnellement était descendu? Il était descendu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ça, c'est une douleur. Personne n'a besoin plus tard de se plaindre. Et malgré tout, Dieu, dans sa grâce, parce qu'il leur avait aveuglé les yeux et nous avait ouvert le cœur et les yeux, c'est ainsi qu'il leur a accordé assez de grâce. Et il leur a accordé un vêtement blanc, une robe blanche, pas à cause de leur mérite ou bien de leur dignité, mais simplement par sa grâce, une robe blanche. Et ensuite, en ce qui concerne la foi, bien aimés frères et sœurs, nous voulons, et en ce qui concerne cela, dire une parole claire et entendre une parole claire. La foi, sans être liée avec la pratique de ce qu'on écoute de la parole de Dieu, est en vain. Un exemple. Si par exemple, je lis Marc 16, verset 16, et que là, il est écrit, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Ça, il est parlé ici de la foi. De parler ici de la foi sans le baptême exécuté, ça n'a pas de sens. Si on croit, on se laisse baptiser. Ça, ce n'est pas mon opinion. Ça, c'est la parole sainte de Dieu. Car c'est aussi certain que, par exemple, dans l'ordre missionnaire, Marc 16, verset 16, il est écrit, celui qui croit et qui se laisse baptiser. De la même manière, il est écrit aussi sûrement, n'est-ce pas, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41, tous ceux qui acceptèrent sa parole se laissèrent baptiser. Quel sens devrait avoir de parler de la foi si on ne lit pas la foi à l'obéissance? Comme c'est écrit dans Hébreux 4, verset 2, la foi est liée à l'obéissance et l'obéissance est liée avec la pratique, avec la pratique. Il n'y a pas de chemin qui pourrait se détourner de cela si nous voulons atteindre le but. Peut-être que vous avez encore un peu de temps pour tirer cette comparaison. Mais la parole ne sert à rien parce qu'ils n'ont pas lié à la foi, à cette foi qui est liée à la pratique, à l'obéissance. Hébreux 4, verset 2. Peut-être que nous pourrions lire là où Paul parle d'Abraham qui avait cru Dieu. S'il vous plaît, acceptez cela. Nous n'avons pas ici les différentes épîtres du Nouveau Testament de ces différents apôtres. Simplement parce que nous voulions avoir plus de contenu, mais c'est justement pour voir et montrer que le même sujet est éclairci de plusieurs angles. Paul, dans son épître aux Romains, a élevé la foi liée aux promesses que Dieu a faites. Mais Jacques a, dans son épître, élevé la foi. Que la foi sans les œuvres n'est rien, elle est morte et qu'en fait, devant Dieu, elle n'existe même pas. Une foi sans l'œuvre, sans la pratique, une foi qui n'est pas liée à la pratique de la parole de Dieu, à l'obéissance, c'est une imagination, c'est même pas de la foi. La foi, comme le dit les Saintes Écritures, est liée avec Dieu et la parole de Dieu. Elle est ancrée dans les promesses de Dieu que Dieu a faites. Et comme par exemple, le Seigneur, alors que par exemple le Seigneur disait à Abraham qu'il doit sacrifier son fils, bien-aimés frères et sœurs, il n'a pas hésité ou bien pleuré ou bien eu un problème. Pourquoi? Parce qu'il était convaincu que Dieu lui avait donné les promesses, que en Isaac, en ce fils de la promesse là, tous les peuples seront bénis. Et Abraham était convaincu que à cause de cette parole de la promesse qui est sur ce fils, si je la porte en sacrifice, Dieu va devoir le ressusciter pour pouvoir accomplir cette parole de la promesse. Et je vais le, Dieu va me le restituer. Et ça, c'était sa foi. Et Jacques dit d'une manière merveilleuse, et il éclaircit cela dans cet angle, dans Jacques, le chapitre 2, Jacques, chapitre 2, à partir de verset 14, nous lisons ici, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-il le sauver? Oui. Nous venons ici à un sujet très important. La foi est à la première place. Crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que tu seras sauvé. Ça, c'est le message du salut divin de Dieu. Mais la foi, par l'obéissance, est confirmée à ce moment-là seulement. Et c'est ainsi que la preuve est apportée, comme du peuple d'Israël, on a pu le lire, que si tu demeures désobéissant, si tu demeures désobéissant, vous pouvez lire Jean 3, verset 63, et même dans Lévitique, chapitre 26. Qu'est-ce que ça leur a servi de se nourrir de la manne et de voir la colonne de feu? Qu'est-ce que ça leur a servi de boire de l'eau du rocher? Corporellement, ils ont conservé leur vie, mais spirituellement, ils s'égaraient dans leur cœur. C'est pour cette raison que c'est nécessaire que Dieu puisse nous accorder un nouveau cœur, un nouvel esprit, nous accorder par cette expérience une liaison personnelle à lui et à sa parole, par sa grâce. Ici, nous avons un exemple pratique. Jacques chapitre 2, à partir du verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous. Oui, qu'est-ce que c'est ça? Si quelqu'un est nu et a faim, et je lui dis, va en paix, mange et chauffe-toi. Mais c'est quelque chose qui ne va pas. Je dois d'abord l'aider pour que ce que je dis qu'il fasse soit possible. Je dois faire en sorte qu'il puisse trouver à manger, qu'il puisse pouvoir se revêtir, pour que sa faim soit répondue et que sa nudité soit cachée. Mais de dire simplement que Dieu te bénisse, ce n'est pas possible. Nous voyons comment est-ce que c'est important que notre vie de croyant, de foi, soit liée à la pratique par la grâce de Dieu. Pas simplement de jouer les pieux, des paroles pieuses et de continuer à marcher. Non, et encore une fois, non. Pas de faire des paroles, mais de reconnaître que la foi est liée à la pratique de la parole de Dieu. Ensuite, il est écrit ici, au verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Si la foi n'est pas liée à la pratique de la parole de Dieu, elle est morte. Alors, elle n'a pas de vie. Et ce qui est mort, on peut l'ensevelir, peut se laisser ensevelir. Ensuite, il est écrit ici, au verset 18, « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi. Prouve-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » De mettre en pratique la parole de Dieu, écoutez, c'est la preuve que nous avons cru ce que nous avons écouté. Tout le reste, c'est de la théorie. Le Seigneur a dit, celui qui croit en moi, comme le dit les Saintes Écritures. C'est-à-dire que si les Écritures sont mises en pratique par nous, alors il promet de nous remplir de son Saint-Esprit. Jean 7, versets 37 et 38. Je vous donne un exemple. Si par exemple quelqu'un dit, celui qui croit que je suis baptisé sera sauvé. Alors, aucun n'en peut venir et dire je crois, mais de me laisser baptiser, non. Alors c'est pas possible. Ça veut dire que sa foi n'est pas encore vivante. La foi n'a pas encore reçu la révélation de la puissance de Dieu. Car quand la foi devient une révélation, alors cela se passe avec la personne. Alors, la première question, comme lors de cet homme de l'Éthiopie, il a posé tout de suite la question, où voici l'eau? Qu'est-ce qui se tient encore en obstacle à mon baptême? Actes des Apôtres, chapitre 8. Bien-aimés frères et sœurs, nous revenons dans l'époque où la foi doit être liée à l'obéissance, et l'obéissance doit être liée à la pratique de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous devenons des gens qui mettent la parole en pratique et qui ne se bornent pas à l'écouter seulement. Peut-être sont en train peut-être à regarder aux Juifs et disent, oui, regardez, c'est à cause d'eux, c'est leur faute parce qu'ils marchaient dans leur propre chemin. Mais nous allions aussi dans notre propre chemin. Nous avons été fautifs par la désobéissance. C'est pas la peine de regarder aux Juifs, nous devons revenir. C'est pour cette raison que Dieu, dans notre génération, a envoyé un prophète. C'est pour nous ramener à sa parole, pour que la foi soit liée à l'obéissance. Et ça, de tout notre cœur, comme c'est écrit dans Romains 6, verset 17. Hein? C'est de cœur que nous obéissons à l'enseignement des Écritures. C'est ainsi que, pour ici presque frapper le sol, Jacques écrit encore ici, au verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu. C'est merveilleux. Et ensuite, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Oui. Ici, nous voyons que la foi dans ce seul Dieu unique, les Juifs ont et vont pour toujours croire seulement un seul Dieu. Et dans l'éternité, ils croiront seulement qu'un seul Dieu. Mais cela ne leur a servi à rien parce qu'ils n'avaient pas la révélation de ce Dieu-là qui, pour notre salut, s'est manifesté dans la chair en tant qu'homme parmi les hommes. Ils ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont rejeté. Ce qu'ils croyaient était détourné de Dieu. Ils voyaient ce Dieu seul, mais ils ne le voyaient pas. Ils ne voyaient pas que ce seul Dieu-là avait fait des promesses et que la Vierge allait enfanter et faire naître un fils. Et que ce fils qu'elle allait faire naître lui-même est le Père éternel, le Prince de la paix. Dieu, en tant que Père au ciel, peut se révéler. Le même Dieu peut dans le Fils sur cette terre se révéler. Emmanuel, Dieu avec nous, un et le seul Dieu dans toute l'éternité. Maintenant, nous venons rapidement au verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Israël et Isaac sur l'autel? Ici, Jacques vient au noyau de la chose. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Et donc, ici, il conduit et il prouve et il dit ici, tu vois que la foi agissait avec les œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ensuite, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. C'est ainsi que la parole s'est accomplie. Ainsi s'accomplit. Vous voyez, il ne s'agit pas de la théorie. Il ne s'agit pas des promesses, comme c'est écrit dans Hébreux 10, verset 34. Il s'agit de l'accomplissement. C'est ainsi que la parole s'est accomplie. Nous avons besoin de l'accomplissement de la parole de Dieu, encore aujourd'hui. Et Hébreux 12, verset 2, il est dit que c'est lui qui a suscité notre foi et qui la rend parfaite. C'est lui. Nous avons besoin de la communion avec lui. D'abord, les promesses. Et d'abord, il voit son état présent, et son état, l'état de sa femme Sarah, sans espérance, tout meurtri, tel que le déroulement naturel de la vie est. Et il n'a pas regardé aux choses visibles. et aux circonstances difficiles, mais il a regardé à l'invisible comme s'il le voyait. Bien-aimés frères et sœurs, ça, c'est aujourd'hui ma disposition et ta disposition. Nous ne regardons pas à l'extérieur. Nous ne regardons pas à ce qui est avec nous, bien en nous, bien autour de nous, mais à l'invisible, comme si nous le voyons. Car il a donné des promesses. Et les promesses sont oui et amen. Et chaque promesse de Dieu aboutit dans la réalité. Peut-être encore cette pensée. Jacques 2, verset 23 est à lire ensemble avec Hébreux 10, verset 34, c'est important. Car c'est seulement après avoir accompli sa volonté que nous obtiendrons ce qu'il a promis. Bien, mes frères et sœurs, Dieu a pris toute la responsabilité. Même s'il y a des malades parmi nous, il a dit qu'ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions mettre la parole de Dieu en pratique. Ou bien alors les choses iront mieux pour eux. Je ne porte pas la responsabilité pour ce que Dieu a dit dans Marc 16, verset 16, 17. J'ai seulement dans l'obéissance à imposer les mains aux malades. Le reste, la guérison, c'est remis à Dieu. Si il est écrit que par les mains des apôtres, des signes, des prodiges et des miracles ont eu lieu, par les mains. Alors ce n'est pas Pierre ou bien Paul qui ont guéri ou bien qui ont, mais tel que Pierre le dit dans Actes apôtres chapitre 3, ce n'est pas nous, mais c'est par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et dans Actes 4, ils ont prié aussi. C'est ainsi que cet homme a retrouvé ses membres ici, en bonne santé devant vous. La même chose doit se répéter aujourd'hui. Parce que de la même manière, comme dans Marc 16, verset 16, il est écrit, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Pas seulement celui qui croit, mais celui qui croit et qui se laisse baptiser. De la même manière, il est écrit dans le verset qui suit, que ces signes accompagneront ceux qui auront cru. La foi doit entrer dans la confirmation de la parole de Dieu que nous croyons. Il n'y a pas de chemin qui se détourne de cela. Si nous croyons à la pleine restauration de toutes choses, et Frère Branham était le meilleur exemple vivant devant nous, il avait un ministère restauré, restitué, un ministère rétabli, restauré. Et il avait, dans cette position, apporté un message du salut. Pas quelque chose de nouveau, mais cette parole-là de Genèse, chapitre 1 jusqu'à Apocalypse, chapitre 22, a révélé toute la Bible. Et cet homme de Dieu a dit que si je n'ai pas prêché la vérité, alors Dieu n'a pas besoin de confirmer les prédications. Mais si, de confirmer ce que j'ai dit, mais si j'ai prêché la vérité de la parole de Dieu, alors Dieu est obligé, à cause de sa parole, de confirmer les vérités de la Bible qui ont été prêchées. Et c'est ainsi que nous avons le même droit à cet endroit. Si nous avons apporté un seul et unique enseignement qui serait venu de nous, avons-nous ici un petit point que nous aurions apporté de nous-mêmes? Rien n'a apporté de nous-mêmes. Tout, tu es Seigneur. Tout Dieu nous l'a accordé. Cette parole merveilleuse et glorieuse de notre Dieu a été d'une manière nouvelle, révélée et placée sur le chandelier. Le message de la fin des temps, ce ne sont pas toutes ces interprétations et ces opinions où des hommes ont fait des citations d'un serviteur de Dieu, des doctrines où l'homme joue un rôle. Non, la parole révélée pour cette époque est la parole révélée. La parole révélée contenant les promesses pour cette époque, c'est ça le message de la fin des temps qui est apporté à tous les peuples. Tel que c'est écrit ici dans la Bible, nous voulons résumer, le peuple d'Israël a dû aller par un chemin difficile, comme personne d'autre sur terre, comme aucun autre peuple sur terre. Seulement parce qu'ils ont brisé l'alliance, dans la désobéissance ils ont persévéré, dans l'incrédulité ils ont demeuré, et l'heure de la visitation divine, ils ne l'ont pas reconnue. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est ce qui va se passer avec toute la chrétienté, avec toutes les églises et toutes les communautés? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement avec tout cela qui n'ont pas reconnu le message de l'heure, la parole de l'heure, qui ne se sont pas mis du côté de Dieu de cette manière, au contraire, qui peut-être pensent en eux-mêmes, dans le silence ou bien l'esprit à haute voix, oh, ces gens là-bas suivent un homme. Même si cela était ainsi, nous pourrions au moins suivre un homme qui, comme Paul le dit, pouvait le dire, suivez-moi comme je suis Christ. Car il était un exemple pour les croyants. Ça aurait été pour moi plus facile de suivre un tel homme que de suivre un évêque ou bien un cardinal ou bien certains de ces dignitaires. Cela ce serait plus facile pour moi de suivre un homme comme Paul. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous ne suivons aucun homme, nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. C'est pour nous, il n'y a qu'un seul qui est mort. Et celui qui est mort pour nous, c'est lui que nous suivons. Et c'est lui qui veut que nous puissions vivre justement pour lui. Comme c'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14, 15, 16. Que le Seigneur puisse lui-même nous représenter devant les yeux ce que c'est que la désobéissance. Et quelles sont les conséquences de la désobéissance et de la délincrédulité. Qu'il puisse nous montrer aussi quel est le résultat de la foi et de l'obéissance. Et que nous puissions de cette manière nous mettre du côté de Dieu. C'est seulement comme ça que nous pourrons nous mettre du côté de Dieu et qu'il pourra nous amener dans la perfection jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Le chemin de l'Église était semblable, comme tous nous le savons. D'abord, il y a eu la persécution ensuite de l'Église, ensuite les persécutions des Juifs et de nouveau la persécution des chrétiens. Et tous les vrais enfants de Dieu, toute la semence de Dieu n'ont jamais été reconnus sur cette terre. Et c'est ainsi que nous remercions Dieu le Seigneur de ce que nous ne cherchons même pas la faveur des hommes et d'être reconnus par les hommes. Nous n'avons pas besoin de représentants au Parlement européen. Nous avons besoin de notre Seigneur et Rédempteur qui a versé son sang et sa vie pour nous. Et il disait, je serai avec vous tous les jours jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés frères et sœurs, nous devrions remercier Dieu, car dans la réalité, il nous a placés dans l'état actuel, spirituel, dans les développements, dans le royaume de Dieu. On devrait écrire là-dessus et exposer ces choses pour montrer le chemin de Dieu avec Israël et avec l'Église et dans son entièreté. Et même après cela, même si nous savions tout cela, si nous pouvions exposer tout cela dans toute sa clarté, ça a toujours besoin, malgré un exposé clair, de la révélation de l'Esprit de Dieu, car l'homme animal ne reçoit pas les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, qui ont été révélées par Dieu. Il ne les reçoit pas, si ce n'est qu'il naisse d'en haut et que le Seigneur lui fasse grâce. C'est pour cette raison que nous reconnaissons 1 Corinthiens 2, verset 14, sans avoir de penchant, mais ou bien d'orgueil, ou bien de fierté, mais avec l'humilité et la reconnaissance devant le Seigneur. Nous reconnaissons ce qu'il a fait en nous. Parmi des milliards de personnes et des millions dans toute l'Europe, un petit troupeau, un petit pourcentage de rien du tout, qui reconnaît ce que Dieu fait dans le présent. Et bien sûr, c'est la même position dans le monde entier, parmi les véritables croyants. Que le Dieu Tout-Puissant puisse nous remplir de reconnaissance. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas cela. Le Seigneur a toujours de nouveau eu à dire, et si vous ne voulez pas m'écouter et que vous me résistez, dans Lévitique chapitre 26, toujours de nouveau, verset 14, verset 18, verset 21, nous avons lu ces versets. Dieu exige de nous l'obéissance. Il veut des enfants de Dieu obéissants. Il veut faire de nous des enfants, pas seulement des enfants de Dieu, mais des enfants de Dieu obéissants. C'est ainsi que Paul, dans Romains 1 et ensuite dans Romains 16, par la prédication, il veut, et aussi dans Romains 15, verset 18, il veut produire, Dieu veut produire en nous l'obéissance de la foi. Romains 1, puis Romains 15, verset 18, et Romains 16, verset 25. Bien, mes frères et sœurs, vous voyez comment c'est merveilleux, comment est-ce que Dieu a révélé sa parole. Cela n'a jamais existé auparavant sur cette terre. Et il nous accorde l'accès et la grâce. Et nous sommes reconnaissants pour cela. À lui, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, À lui soit la louange, l'honneur, car il est notre Père, il est devenu notre Père, le Père éternel, le Prince de la paix. Et c'est à lui que nous apportons notre reconnaissance au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, nous devrions remercier Dieu, vraiment remercier Dieu. Et comme auparavant je l'ai dit, si la prière pour les malades est nécessaire, croyez simplement, croyez de tout votre cœur et venez qu'on puisse prier pour vous. Et dites, bien-aimé Seigneur, c'est ainsi que cela est écrit dans ta parole dans Marc 16, c'est ainsi que tu l'as dit au verset 16, c'est ainsi que je le crois. Et au moment, Dieu ne peut rien faire d'autre que de confirmer sa parole en tant que vraie. Et écoutez, rien n'est impossible auprès de notre Dieu. Rien est étonnant de sa part. C'est ainsi qu'il est le plus glorifié. Quand ce qui est impossible peut se passer et qu'il peut confirmer sa parole en nous, à lui, le Dieu Tout-Puissant, soit l'honneur, la gloire, l'adoration et la reconnaissance, maintenant et dans toute l'éternité. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons nous lever et ensemble chanter. Crois seulement. Crois seulement. Toutes choses sont possibles à celui qui croit.
Glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, nur glaube nur, glaube nur, glaube nur, alles ist möglich.
Nous courbons les têtes et persévérons dans la prière et cherchons la relation intime et profonde et personnelle et la communion avec Dieu, car c'est ainsi qu'il voulait, c'est ainsi qu'il a dit, j'habiterai parmi eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés amis, encore une parole en relation avec le salut et la guérison et la délivrance. Tout se passe là où la parole est prêchée, où la parole est crue. C'est ainsi que Dieu confirme sa parole. Pour tous ceux qui ont besoin de guérison, que la chose suivante soit dite. Parfois, chez certains, ça suffit que le Seigneur prononçait la parole et cela s'accomplissait. Chez d'autres, il a dû imposer les mains et ils ont été guéris. Chez d'autres, ils ont dû revenir pour la deuxième fois, comme cet homme qui voyait les hommes comme des arbres. Et c'est lors de la deuxième prière qu'il a pu voir les hommes tout à fait normal, tels qu'ils étaient. Ensuite, il y a cette écriture, Dieu envoie sa parole et les guérit. Les difficultés sont différentes. La manière Dieu agit avec chacun peut être différente, mais la guérison est toujours la même. Ça n'a pas d'importance. Comment est-ce qu'elle se passe? Dans Jacques chapitre 5, il est écrit que nous devons oindre d'huile et prier pour les malades. Jacques 5, verset 14, dans Marc 16, verset 18, il est parlé seulement d'imposer les mains. Ça n'a pas d'importance tel que c'est fait. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu se tient sur sa parole. S'il vous plaît, n'ayez pas de propres imaginations de comment est-ce que cela doit se passer. Croyez simplement que cela s'est déjà accompli et cela vous sera accordé, car il vous sera fait tel que vous avez cru. Car toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Alors que Jésus-Christ notre Seigneur, sur la croix à Golgotha, a dit, c'est accompli. Notre rédemption à ce moment-là a eu lieu. Le pardon de nos péchés et la guérison, la délivrance et le salut a eu lieu. Et aussi certains qu'il a été frappé et meurtri, c'est ainsi qu'aussi certains, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est ainsi que cela a été écrit, et c'est ainsi que nous le croyons. Et c'est ainsi que cela, aujourd'hui, parmi nous, doit se passer. Examinons-nous. Est-ce que nous marchons sur le chemin de Dieu? Nous allons d'abord ensemble prier et demander à Dieu le Seigneur de nous pardonner tout. Tous nos propres chemins, nos propres pensées, tout ce qui n'était pas correct et juste devant le Seigneur. Nous voulons lui apporter cela, l'apporter sous son sang pour que nous ayons l'accès libre par le sang au trône de la grâce et que Dieu, du trône de la grâce, donc, puisse à nous, en tant que vrai, confirmer sa parole. Nous voulons directement ensemble maintenant d'abord prier. Bien-aimé Seigneur, nous venons devant ta sainte face. Nous prosternons devant toi, dans la poussière et dans la cendre. Nous aussi, nous avons été désobéissants. Nous aussi, nous sommes allés dans nos propres chemins. Bien-aimé Seigneur, toi, Dieu éternel, fidèle, que tu puisses nous pardonner tous, que tu puisses nous faire grâce à tous, et que tu puisses nous secourir, que en ce jour, ta grâce et ta parole parmi nous soient manifestées, et que la foi puisse nous faire passer dans la pratique de ta parole. Tel que nous l'avons dit, les œuvres, tel que tu l'as dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Que aujourd'hui cela se passe, que les œuvres de Jésus-Christ soient manifestées. Salut, guérison, délivrance et bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Jean 14, verset 12 et Matthieu chapitre 11, les premiers versets. Les œuvres de Jésus-Christ. Nous croyons et nous sommes obéissants. Et nous te remercions pour cela. Nous te remercions pour l'accès libre pour la grâce, pour tout. Alléluia.
Alléluia.
Bien-aimé Seigneur, béni, jeune et âgé, sauve, guéris, délivre et confirme ta parole merveilleuse. Alléluia.
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 Alléluia. Lasst uns noch gemeinsam.
Nous voulons encore ensemble prier pour nos bien-aimés frères au Chili. Avec eux, nous sommes de manière très particulière, profondément liés. Et nous les saluons pas seulement d'ici, nous les bénissons au nom du Seigneur, de la maison du Seigneur. Et nous leur souhaitons les riches bénédictions de Dieu. Nous voulons encore une fois prier que Dieu puisse accorder une pleine victoire dans toute la communauté là-bas. et que le Seigneur puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit. Prions. Bien-aimé Sauveur, nous te remercions ensemble pour ta grâce et pour ta fidélité. Et te prions aussi pour toutes les assemblées dans le monde entier, pour ton Église, épouse, de ce que tu appelles les dernières sorties, aussi au Chili. Et nous te demandons que tu puisses bénir nos bien-aimés frères et sœurs d'une manière particulière et que tu puisses te révéler à eux, que tu puisses leur montrer le chemin qu'ils doivent suivre. Et nous te remercions pour la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Nous te demandons pour, nous te prions pour tout le sud de l'Amérique, que tu puisses bénir le Brésil, que tu puisses bénir le Brésil d'une manière particulière. Bénis la Bolivie, bénis le Pérou, bénis tout le centre et toute l'Amérique du Sud et du milieu. Ô Dieu éternel, que tu puisses bénir et bâtir toi-même ton Église et l'achever. Bénis nos frères qui servent dans le ministère de la parole et bénis-nous tous de loin et de près. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur te soit apporté. Honneur et gloire et adoration. Alléluia. 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 Je l'aime. Je l'aime.
Das teure Gotteslamm, das mir geliebt und für mich stand, am Kreuze stand.
Und noch einmal in Englisch.
I love him.
Encore une fois en anglais. Bientôt comme ce sera merveilleux. Bientôt comme ce sera merveilleux. Nous irons tous dans la gloire et nous mourrons. Bientôt comme ce sera merveilleux. Nous mourrons là-bas dans la gloire. Bientôt comme ce sera merveilleux. Nous mourrons là-bas dans la gloire. Bientôt, comme ce sera merveilleux. Nous mourrons là-bas dans la gloire. Et encore ceci est le jour. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Alors nous voulons être heureux et reconnaissants. Permettre à la parole d'agir et à l'Esprit de Dieu d'agir. Ceci est là, est le jour que le Seigneur a fait.
Amen.
Vous pouvez vous asseoir, s'il te plaît, frère Rousse. Au temps du soir. Au temps du soir. La lumière paraîtra. Alors que les hommes se seront égarés de la parole de Dieu. Alors il en verra. Faites Élie. demeure éternelle. Tant du soir, quand la parole resplendira. Alors, il appellera, lui, mon sauveur et mon rédempteur, la poussière et la vie, dans la lumière, au temps du soir, la lumière paraîtra. Alors il retentira, il fera retentir les trompettes. Vous appelez l'épouse au repas des noces, levez-vous. Au temps du soir, la parole sera accomplie. Que les ombres se changera en lumière. Alors il bénira. Il sera la pleine adoration parfaite. Dans les larmes de reconnaissance, nous verrons le roi.